Bonjour à tous. Ils sont mignons, les brebis. N'est-ce pas? Ils semblent comme eux. Alors, je vais lire le texte. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le psaume 23 pour le partager avec vous. Je vais lire. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avant de vous partager le message, je vais prier. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, Seigneur, je te remets vraiment ma personne, mes pensées, mon cœur, et que vraiment tu me conduis par ton esprit, Seigneur, pour que tout ce qui sort de ma bouche, Seigneur, ça soit vraiment, ça vient de toi, pour que tous ensemble, Seigneur, nous puissions vraiment apprendre à travers ce psaume de David et vraiment mettre en pratique, Seigneur, ce que tu vas nous dire à travers le passage aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le psaume 23, c'est un psaume très connu par la plupart des chrétiens, et c'est un psaume de confiance. L'image de berger est utilisée beaucoup de fois dans la Bible pour désigner Dieu. Dans Ésaïe 40, verset 10, dans Jérémie 23 et dans Ézéchiel 34, quand le peuple juif était en déportation, à l'époque, la plupart des rois de Juda étaient des mauvais rois. Et c'est pour ça qu'ils étaient des mauvais bergers. C'est pour ça que Dieu a fait dire par Ézéchiel, « En effet, voici ce que dit le Seigneur éternel, je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles, je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et brouteront dans des riches pâturages sur les montagnes d'Israël. » Voilà le bon berger que Dieu a prévu pour le peuple Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est arrivé sur la terre il y a plus que 2000 ans. Il l'a bien, très bien dit dans le chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 10. David est la personne la mieux placée pour nous parler de berger. Parce que David lui-même a été berger. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34 à 37, quand il est allé combattre Goliath, il a dit au roi Saoul, vous savez que moi je garde les brebis de mon père. Et quand il y a des lions et des ours viennent pour attraper les brebis, je les arrache de leur gueule. Et ici, David a dit, l'Éternel, combien de fois l'Éternel m'a délivré de la griffe de lion, de la patte de l'ours, l'Éternel va me délivrer de ce Philistin Goliath. Voilà. Donc, David, il a passé pratiquement plusieurs années pour garder les brebis. Donc, il connaît très bien la relation entre les brebis et le berger. Et il sait très bien que les brebis ne peuvent pas vivre sans berger. Parce que les brebis dépendent vraiment du berger pour vivre. Le berger assure la nourriture, la direction et la protection pour les brebis. C'est pourquoi David reconnaît ses propres qualités de brebis et il est sûr que Dieu est le meilleur berger pour lui, pour sa vie. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé ce psaume. Alors, qu'est-ce qui fait le berger? Le bon berger, c'est Jésus-Christ, pourvoit à nos besoins, nous protège et nous guide. Les trois points. Voyons d'abord le premier point. Pourvoir à nos besoins. D'abord, les besoins essentiels, ensuite les besoins spirituels. Les besoins essentiels, ce sont pour les brebis de verts pâturages. David l'a dit, il me conduit dans de verts pâturages. Donc, ça veut vraiment dire que l'herbe est fraîche et vraiment bonne qualité pour les brebis. Ensuite, il y a de l'eau. L'eau est indispensable pour notre vie, pour les brebis aussi. Donc, le berger ne conduit pas leurs brebis vers les pâturages sèches, desséchés, où là, il y a un manque d'eau dans le lieu désert. Donc, c'est pour cela que Dieu, Jésus-Christ, pourvoit à nos besoins essentiels en nous donnant du travail, en nous donnant un toit pour pourvoir à nos besoins essentiels. Et en même temps, en tant que les brebis du Seigneur, nous avons besoin de la nourriture spirituelle. C'est ce que Jésus l'a dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne dépend pas seulement du pain pour vivre, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et en plus de nos jours, la Bible est traduite dans pratiquement la plupart des langues. Donc, nous pouvons pas dire c'est en latin, c'est en grec, c'est en hébreu, je ne sais pas lire. Donc, c'est vraiment en français, il y a même beaucoup de versions. Et le Seigneur l'a dit aussi que lui-même, il est le pain. Dans Jean 6, 35, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Jésus dit lui-même, il est vraiment le pain de vie qui descend du ciel. Celui qui croit en lui, qui l'accepte. Quand il dit de manger mon chair et boire mon sang, ça ne va pas dire vraiment, réellement, mais simplement accepter, intégrer Jésus dans notre vie. C'est ce que l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, donc nous avons vraiment, le Seigneur sait de quoi, de ce dont nous avons besoin et nous a donné le meilleur. De l'eau, c'est l'eau H2O et aussi l'eau Saint-Esprit. Dans Jean 4, verset 14, Jésus l'a dit à la Samaritaine, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, ici, c'est Jésus parle de l'eau du Saint-Esprit qu'il va donner quand il va monter au ciel et il demandera au Père de donner. Et le Saint-Esprit nous ressuscite notre vie et nous mène jusqu'à la vie éternelle. Donc, le Seigneur nous a pourvu vraiment les meilleures, la meilleure nourriture. C'est à nous de manger et de digérer. Alors, est-ce que nous mangeons toujours la bonne nourriture que le Seigneur nous a préparée? Et est-ce que nous sommes satisfaits de ce que le Seigneur nous a donné? C'est pour cela que Jésus l'a dit dans Matthieu 6 aussi, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste, le Père vous donnera par la suite. Est-ce que nous faisons comme l'apôtre Paul, savoir contenter de ce que nous avons vraiment seulement essentiel? Avoir des vêtements pour vêtir, à manger, tout ça? Et où cherchons encore tout ce qui est superflu, tout ce que le monde nous donne. Clément l'a dit l'autre jour, finalement on n'a pas besoin de grand-chose, de vêtements et tout pour s'habiller, quelques-uns ça suffit, mais c'est vrai, il a raison, mais nous sommes avec des soldes, avec plein de choses, dans même moi, dans la tête, si on n'achète pas, c'est... Voilà. Donc, le monde essaie de nous faire dépenser par des sols, par plein de choses. Ne tombons pas toujours dans leur piège, frères et sœurs. Voilà, donc, Paul, il a dit, j'ai appris à être content avec ce que j'ai. Et dans Timothée, il a dit, la foi est une véritable richesse si nous savons être contents avec ce que nous avons. C'est apprendre, c'est une discipline à faire. Si nous demandons au Seigneur de nous aider, nous arrivons. Voilà, donc vraiment, le Seigneur nous donne de quoi à manger. Soyons pas, nous ne pouvons pas dire au Seigneur, j'ai rien mangé, tu m'as rien donné. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez chacun. Est-ce que vous mangez à votre faim, à votre soif, avec tout ce que le Seigneur nous donne? Ensuite, après, le Seigneur est bon, il sait de quoi aussi besoin notre âme. Pour l'âme, il y a le repos et il y a la paix. Puisque le berger amène ses brebis dans les eaux paisibles. Ça veut dire dans un cadre sécurisant. Nous savons tous que tout le monde aspire à vivre dans une société en paix, avoir une paix sociale. La preuve, maintenant, depuis quelques années, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, les réfugiés ont fui leur pays pour venir en France, pour avoir vraiment vivre dans un pays de paix. Pour parler des réfugiés, j'en fais partie. J'étais née au Cambodge et justement pour fuir la guerre, pour fuir les Khmers rouges, je suis arrivée en France en 76 en tant que réfugiée. Donc je sais ce que c'est. Mais c'est vrai, à notre époque, il y a très peu de réfugiés, dont les réfugiés du sud-est asiatique étaient bien accueillis par la France. Et ce n'est pas le même sort pour les réfugiés maintenant qui viennent de l'Afrique ou d'autres pays. Ils sont tellement... voilà. Donc vraiment, la paix sociale est importante. Mais le Seigneur ne nous donne pas seulement la paix sociale. Il nous donne la paix de Dieu, la paix divine. L'apôtre Paul l'a bien compris. La paix de Dieu nous permet de faire face à toutes les situations de détresse. Et c'est vrai que, Joël, pardon si je parle de ta maman, mais Béatrice m'a dit, elle est en paix, quand elle était à l'hôpital, quand je l'ai vue, et c'est vrai, Pascal l'a dit, son visage vraiment est en paix, alors qu'elle vivait vraiment quelque chose de vraiment très grave. Il y a que elle qui peut vraiment sentir ça, mais elle est en paix, notre sœur. C'est ça qui dépasse toute chose. Et c'est ce que l'apôtre Paul l'a dit. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Voilà, c'est vraiment ce qui est le plus précieux que seul le bon berger peut nous donner. Alors, après la paix, il y a aussi le repos. Le repos, vous êtes tous contents, on est tous contents quand ça arrive le samedi, dimanche. Le Seigneur nous a créés, je dis merci Seigneur, quand notre corps, même corps physique, on a besoin de dormir la nuit. On peut pas travailler toute la journée, 24 heures sur 24. J'ai entendu... Il y a quelques années, il y a des jeunes qui ont passé toute la journée, même la nuit, de jouer sur les vidéos, et ils ont fini par mourir d'épuisement. Ils n'ont pas travaillé, ils ont joué, mais ils sont morts quand même. Donc, vous voyez, sans repos, le corps ne supporte pas. Et puis, vous savez tous, maintenant, dans notre société, qui demande que des rendements, il demande aux gens de travailler, et il y a le syndrome burn-out. Burn-out. Bon, voilà. Donc, le repos physique, c'est essentiel. Mais le plus important au-dessus de ça, c'est le repos de notre âme. Et c'est encore le Seigneur, Jésus-Christ, le bon berger, qui peut nous donner. dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, je vous donnerai le repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau légère. » Ici, vraiment, le Seigneur a dit deux fois. Quand le Seigneur répète quelque chose, ça veut dire que c'est très important. C'est comme nous, les mamans, qu'on répète et répète et répète quelque chose à nos enfants. C'est très important, n'est-ce pas, Clément? Bon. Laurent n'est pas là, je ne peux pas lui demander. Voilà, donc vous voyez ici, il nous parle de repos de notre âme. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous sommes fatigués et courbés sous un fardeau? D'après vous, c'est quoi ces fardeaux? Ça peut être chargé sous le poids de la vie. Soucié, inquiétude pour la vie, est-ce que j'ai assez à manger? J'ai vu certaines personnes dans leur frigo, c'est complet, c'est vraiment, il n'y a plus de place libre. Congélateur plein, ils ont toujours peur de manquer à manger. D'autres ont peur de manquer des vêtements ou d'autres. Ça, c'est chargé sous le poids de la vie. Sinon, le plus dur, c'est la culpabilité et du péché. Là, il y a seul le Seigneur pour nous libérer de tout cela. Et après, il y a aussi... Oui. Pierre. David nous dit, il restaure mon âme. Verset 3, il restaure mon âme. Donc, restaurer, je suis allée chercher dans la dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot restaurer? C'est réparer, mettre en état tout ce qui est endommagé, tout ce qui est Alors, pourquoi on a besoin d'être restauré? À cause du péché, le péché affecte notre âme. Dieu est en colère envers nous, puisque nous sommes des pécheurs. Donc, quand Dieu nous regarde, nous sommes ses ennemis. Et c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il a pris la forme humaine, il est devenu homme pour pouvoir porter mon péché, ton péché sur son corps, après aller mourir à la croix pour recevoir le jugement, la condamnation et la sentence sur lui. Et par sa mort, il a apaisé la colère de Dieu sur nous. C'est donc par Jésus-Christ qu'il restaure la relation entre nous et le Père. Deuxièmement, il permet aussi de restaurer ma relation avec moi-même. Parfois, il y a des gens, ils ne savent pas aimer eux-mêmes, ils ont un problème avec eux-mêmes, donc ils sont malheureux. Et il n'y a que le Seigneur qui peut agir, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que ça donne la guérison, la restauration. Troisièmement, une fois que Jésus a restauré ma relation avec Dieu le Père, avec moi-même, là, il restaure aussi ma relation avec les autres autour de moi. Donc là, c'est vraiment la restauration complète et parfaite. Alors, donc, le Seigneur pourvoit vraiment à tous nos besoins. Est-ce que nous venons toujours au repos auprès de notre Seigneur ou nous courons toujours vers tout ce que le monde nous attire? Ça, c'est à nous, chacun de nous, de voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 12, il nous demande « Ne vous conformez pas au monde ». avec tous les convoitises qu'il donne. Soyons vraiment attentifs et vigilants. Alors, on va voir la deuxième. C'est pour ça que j'aime bien ce verset. C'est le Messie dont Ésaïe parle, c'est Jésus. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que j'aime mieux quand on sait pas. Il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris et restaurés par l'œuvre de Jésus à la croix, pas par nos propres mérites ni par notre effort. Voyons ensemble le deuxième point, la protection. Donc, les brebis ont besoin du berger pour les protéger. Alors, le Seigneur nous protège. Alors, quand David parle, il dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. » Vous remarquez que là, David passe de « il » hein, il me conduit, il me tout ça. Maintenant, à tu. Donc, ça veut dire que la relation se devient plus intime. Et là, le Seigneur n'est plus devant lui. Le berger ne marche plus devant. Il est à côté, tout près. Ça veut dire tout près pour justement pour protéger David et pour le rassurer. Ici, quand David parle de la vallée de l'ombre de la mort, il parle vraiment de la mort. Parce que pour parler de la mort, David le connaît. Il a connu plusieurs fois, il a failli d'être mourir. Il a été oint par Samuel quand il avait 15-16 ans, il était berger, mais il a fallu qu'il atteigne l'âge de 30 ans pour être roi en Israël. Donc pendant ces dizaines d'années, il a été pourchassé par le roi Saoul, cherché à le tuer. Parce que quand David a vaincu Goliath, les femmes ont chanté que David était meilleur que le roi Saoul. C'est encore la faute des femmes, vous voulez dire. Donc, voilà, c'est à cause de ça, à ce chant, Saoul ne peut pas digérer, il cherche à tuer David. Et David est vraiment... Combien de fois il a failli tomber sous la main du roi Saul, ben le Seigneur l'a délivré à chaque fois. Voilà, donc c'est pour parler de la mort, frôler la mort, David est vraiment la personne la mieux placée. Ensuite, c'est l'apôtre Paul. Pareil. Sur ça, il a dit dans Romains 8, « Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ?» Vous connaissez par cœur ce verset. Voilà, donc vraiment, David n'a pas peur parce qu'il sait que Dieu est à son côté, tout près de lui. C'est pour ça, dans les psaumes qu'il a écrits, il a dit quoi ? Dieu est mon bouclier. Dieu est mon abri. Dieu est mon refuge. Donc, il sait que auprès de Dieu, c'est la protection constante et parfaite. Meilleur que tous les systèmes de protection, d'assurance, ou je sais pas quoi, que nous avons avec auprès des sociétés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous assurer la meilleure protection du monde. Je vous assure. C'est mieux de vous assurer auprès de Jésus-Christ. Pardon, Seigneur, c'est pas... Alors, ensuite, après avoir... mais c'est vrai, la mort. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire face. Mais face à la mort, tout le monde est impuissant, impuni, même les médecins ou les présidents, n'importe qui, hein, c'est vraiment démuni. Par contre, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de la vie, on a chanté, il a vaincu la mort, donc il nous donne la vie éternelle, donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons vraiment pas avoir peur de la mort. Et c'est vrai, ce verset-là, ça a encouragé et ça a accompagné beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vivent dans la persécution. Ce n'est pour rien que David a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire vraiment ce verset. Ensuite, Dieu ne fait pas tout comme ça. Il nous donne toujours de meilleur. Voilà, Jésus l'a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, ensuite, David, il a dit dans le verset 5, « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu invite, prépare un festin, il invite David à sa table. Il met David sous sa divine protection. Et les ennemis qui pourchassent David devant la haute protection de Dieu ne peuvent rien faire. Ils sont impuissants. Ils ne peuvent qu'assister à David, au triomphe de David. Mais là, c'est pas David qui a triomphé, hein. C'est grâce à la protection de Dieu que David a triomphé. Ça vous rappelle pas quelque chose? Quand Dieu a libéré le peuple de l'Égypte de la main du Pharaon, c'est pas le peuple d'Israël qui ont combattu. À chaque fois, la Bible dit, Dieu combat pour eux. Dieu marche devant eux. Je viens de terminer de lire Exode. Jusqu'à la fin, j'ai remarqué que Dieu, depuis qu'il a libéré son peuple de l'Égypte, il a toujours été avec eux. Il y a zéro moment où il les a lâchés. Pendant toute leur marche dans le désert, il est avec eux par une colonne de nuée dans la nuit, dans la journée. Et dans la nuit, il y a de la lumière au milieu de la colonne de nuée. Et quand ils sont installés dans leur camp, la gloire de Dieu, la colonne de nuée ou le feu est au milieu du tabernacle. Donc, qu'ils marchent ou qu'ils s'arrêtent, Dieu est toujours avec eux, quoi. Et c'est ce que Jésus le fait avec nous maintenant. Dieu est présent avec eux. Constant, 24 heures sur 24. Et là, ce que fait Dieu pour David, c'est vraiment lui donner le festin. Et l'image du festin avec les invités, la Bible nous a mentionné de nombreuses fois. Dans l'Ancien Testament, il y a Joseph qui a invité ses frères au festin, qui a nourri toute la famille de Jacob, qui sont le futur peuple d'Israël. Jusqu'à Jésus-Christ, dans Jean 6 ou Matthieu 14, Jésus qui a nourri 5000 hommes, et jusqu'à Apocalypse 19, 9, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc, pour nous qui appartenaient non au troupeau de Jésus-Christ, du bon berger, nous serons au festin des noces de l'agneau. Alors, l'huile sur la tête, ça veut dire que on reçoit avec l'honneur et respect l'invité. Et dans l'ancien l'époque, ça veut dire que c'est un signe d'accueil. Un signe qui protège à n'importe quel prix l'hôte. Non, son hôte. Et c'est bien ce que dit Lot dans Genèse, comme nous l'avons appris. Lot, il veut à tout prix, quand les hommes de Sodome veulent prendre les deux, faire sortir les deux anges qui étaient invités par Lot chez lui. Lot l'a dit, ils sont mes invités, ne leur font pas de mal. Si vous voulez, il est prêt à sacrifier ses filles pour sauver ses invités. Ça, c'est le coutume de l'époque. Quand il prend quelqu'un dans sa maison, il les protège à n'importe quel prix. c'est ce type de protection que Jésus-Christ nous offre. Voilà. En sachant que Jésus est notre protection, ça chasse vraiment notre peur, notre frayeur. Le fait de verser l'huile sur la tête, voilà, c'est vrai, je dis. À déborder la coupe, c'est vraiment, ça veut dire que le Seigneur, quand il donne avec abondance, il nous comble. C'est jamais donné par des miettes, par des petits morceaux. Et comme Samuel, il a dit tout à l'heure avec les microns, on peut dire que le fait qu'on est béni par le Seigneur, on peut devenir la bénédiction des autres, c'est-à-dire la coupe qui déborde, que cette bénédiction qu'on reçoit du Seigneur soit aussi sur les autres. Pour ça que Jésus, il a dit, il est venu, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. C'est complètement différent que la religion Bouddha qui nous donne, qui demande aux gens d'aller dans le vide. Notre Seigneur nous donne l'abondance. L'abondance d'amour, de joie, de paix, de toutes bonnes choses. Le troisième point, c'est la direction. Le sentier de la justice est la maison de l'Éternel. Le sentier de la justice, c'est le chemin que Jésus a déjà marché. C'est le chemin où il a obéi totalement au Père. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a été arrêté, trahi, arrêté, insulté, condamné à tort, mourir à la croix. C'est aussi le chemin qui mène à sa résurrection et sa glorification. C'est pour ça que l'apôtre Paul l'a bien décrit, je vais vous lire simplement le verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est vraiment le chemin, le bon chemin, le chemin de la justice. C'est donc la vie de Jésus-Christ et son enseignement. Il nous invite à vraiment à le suivre, comme les brebis qui suivent leur berger. Dieu nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, pas simplement sauvés, nous a sauvés qu'on puisse mener une vie qui est sans à la sienne. Tout ça pourquoi? À cause de son nom, afin que son nom soit glorifié. Et justement, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, nous avons à montrer par notre conduite que nous sommes vraiment son témoignage, un bon témoin, pour qu'on rende gloire à Dieu. Et si je me comporte mal, c'est le nom de Seigneur que je déshonore. J'ai partagé tout à l'heure avec Samuel, en haut, la prière, il y a quelques jours. Je me suis laissée irriter au travail. Donc, devant ma secrétaire, j'avais vraiment une mauvaise témoignage. Après coup, j'ai eu honte et vraiment, je me suis repentie et j'ai demandé pardon au Seigneur, quoi. Parce que quand elles savent que je lui ai dit, elles savent que je suis chrétien et que je m'énerve pour des petites choses, elles se disent, c'est là, vraiment, voilà. Donc vraiment, ensuite, c'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ça, c'est vraiment la vie après la mort. Parce que David, il dit, j'habiterai ou je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Donc David, il sait, inspiré par le Saint-Esprit, il sait qu'après la mort, il va encore retrouver Dieu. Il sait très bien que la mort ne met pas un terme à sa relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur. Voilà, donc vraiment, c'est... Pour nous, c'est pareil. La maison de l'Éternel, c'est la promesse de la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a déjà, ça commence en nous déjà, dès notre conversion. Mais nous le vivrons pleinement au retour de Jésus-Christ. Nous aurons un corps glorieux chez vous. Celui-là, je vais pas vous partager, pasteur l'a déjà fait. Je vais vous lire 1 Thessaloniciens 4. C'est Paul qui dit aux Thessaloniciens de l'époque, quand Jésus revient, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes encore en vie, nous sommes tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et aussi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce qui nous attend tous, nous qui font partie des brebis du Seigneur. » Voilà, donc vraiment, c'est pour cela que nous n'avons pas besoin vraiment de craindre la mort. Et dans Apocalypse aussi, c'est vraiment un ciel, un nouveau monde. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de nos yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Voilà, donc c'est ce que Jésus promet et que ce que nous aurons après avoir terminé notre voyage terrestre, la vie dans le monde. Voilà, pour conclure, Jésus-Christ, le bon berger, nous donne tout ce dont nous avons besoin, pourvoir à tous nos besoins. Il nous assure la protection, il est avec nous à chaque instant, à chaque circonstance, pour nous protéger et pour nous guider. Et est-ce que nous suivons toujours sa direction? Est-ce que nous sommes toujours derrière eux? C'est à chacun de nous de réfléchir. Vous savez qu'une brebis égarée, c'est vraiment une brebis qui est perdue. Il est à la proie de lions ou des ours. Et c'est pareil pour nous, les brebis du Seigneur. Alors, simplement pour terminer, j'ai juste deux questions à vous laisser. Veux-tu suivre ton berger? Même dans le haut, même surtout quand c'est dans le bas. Pour les personnes qui n'ont pas encore suivi le Seigneur, veux-tu accepter Jésus-Christ comme berger? Si oui, venez me voir après le culte, je vais prier pour vous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être notre bon berger. Merci d'être venu pour que nous ayons la vie. Merci d'être mort à la croix à notre place. Merci d'avoir apaisé la colère de Dieu le Père et nous réconcilier avec lui. Seigneur, merci, c'est vraiment par ta meurtrissure que nous sommes guéris et restaurés. Nous te disons vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix et même pour ce que tu fais actuellement encore avec nous. Seigneur, merci et s'il te plaît, continue l'œuvre que tu as fait en nous pour que nous puissions te ressembler aussi bien en acte, en parole et en conduite, pour que nous puissions vraiment glorifier ton nom à travers notre vie de chaque jour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.